Bonjour à tous. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir à la librairie Moulin deux écrivains jeunes, talentueux et en plus amis, François-Henri Désérable et Clément Bénèche, qui signent pour la rentrée littéraire leur troisième livre, leur troisième roman, le troisième roman, pas tout à fait un roman, mais on en dira un peu plus tout à l'heure. Est-ce que je fais le pitch ou est-ce qu'ils font le pitch à ma place? Qu'est-ce que vous avez envie? Vous avez envie de quoi?
Moi, je peux faire le pitch de celui de François-Henri.
Ah, tiens, quelle bonne idée.
Alors, bonsoir à tous. Un certain monsieur Piekielny, c'est donc le troisième livre de François-Henri chez Gallimard. Est-ce qu'on m'entend si je parle un peu plus loin? Non, il faut que je me rapproche. Ouais, comme ça, c'est bon. Ça part d'abord d'un personnage qui s'appelle Monsieur Piekielny, ce qui veut dire, si je ne m'abuse, infernal en polonais, c'est ça. Et c'est un personnage qui apparaît dans un livre de Romain Gary qui est La promesse de l'aube. Et en fait, dans La promesse de l'aube, Gary raconte son enfance avec une mère qui pensait que son fils deviendrait un grand homme, il deviendrait Victor Hugo, Gabriele D'Annunzio. Et en fait, ça faisait rire beaucoup les gens du voisinage, sauf un monsieur, Monsieur Piekielny, qui se disait « Mais en fait, cette dame a raison, les mères sentent ça, c'est ça ? Les mères sentent ça. » Et donc, chaque soir, il invitait le jeune Romain Gary, qui s'appelait encore Roman Kassev, à venir chez lui dans son petit appartement, et il lui offrait des loukoums. Et il disait « Quand tu rencontreras les grands de ce monde, tu leur diras qu'au 16 de la rue Grande Pohulanka habitait un certain monsieur Piekielny. » Et donc Gary raconte qu'il s'est acquitté de cette tâche. Et en fait, on ne sait pas, comme La promesse de l'aube est un livre qui mêle un peu réalité et fiction, on ne sait pas vraiment dans quelle mesure ce personnage de Piekielny a existé. Et donc François-Henri en fait, va partir sur ses traces. Et ce livre est une enquête sur les traces de ce personnage, une enquête qui va donc emmener le narrateur jusqu'à Vilnius en Lituanie et dans toutes sortes de détours. Donc voilà.
Alors moi, je n'ai pas encore lu le livre de Clément, mais si j'en crois ce que j'ai lu ça et là dans la presse, c'est un excellent roman. Je vais essayer de restituer ce que j'ai pu comprendre. Je crois, et Clément, arrête-moi vraiment si je me trompe, que c'est l'histoire de deux jeunes gens qui partent en Slovénie. Non. Ah non, ça c'était le premier, pardon. Non, c'est l'histoire d'une jeune fille, écrivain, alors il n'est pas question de ses romans dans ce livre, qui habite à New York et qui a rencontré, via une application pour smartphone que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Tinder, qui a rencontré un jeune homme, critique d'art, roumain, dont elle est tombée éperdument amoureuse. Et après quelques mois passés avec lui, elle a des raisons de croire que ce jeune homme a pu être, dans sa jeunesse, en Roumanie, un assassin. Mais comme elle vient de trouver un travail et qu'elle n'a pas le temps de mener l'enquête de manière plus approfondie, elle fait appel à un de ses amis, qui est le narrateur de cette histoire. Il y a pas mal de ressemblances entre le narrateur et l'auteur. Et cet ami vient donc à New York et il va prendre ce jeune homme en filature et il va mener l'enquête pour le compte de la jeune fille. Est-ce que je l'ai bien dit ?
Oui, si ce n'est que le jeune homme a quand même 44 ans. Donc ça reste jeune dans l'absolu, mais il faut le dire parce qu'elle a 20 ans de moins que lui.
Ah oui, elle est gérontophile.
Et donc c'est pour ça qu'il a un passé qu'on peut soupçonner d'être un peu trouble. Mais sinon c'est excellemment raconté. On croirait presque que tu l'as lu.
Mais je le ferai.
Alors donc ce sont deux enquêtes, si je comprends bien. Celle de Clément, c'est un narrateur donc, qui va mener l'enquête. Et celle de François-Henri Désérable, c'est donc lui-même, apparemment. Mais pour ce qui vous concerne, en tout cas, ce n'est pas un choix, cette enquête. Qu'est-ce qui est à l'origine donc, de cette enquête et pourquoi ce n'était pas un choix?
Alors, je me suis retrouvé de manière assez fortuite à Vilnius, capitale de la Lituanie, petit état balte au nord-est de l'Europe, alors que je devais aller à Minsk, en Biélorussie, qui est la dernière dictature d'Europe. Et je dis ça à chaque fois que je raconte cette histoire, et je me demande si j'aurai un visa pour Minsk la prochaine fois que je souhaiterais m'y rendre. Et il se trouve qu'il n'y avait plus de place dans l'avion, parce que les vols Paris-Minsk sont assez... enfin, il n'y en a pas tellement. Et j'ai donc dû passer par Vilnius, et j'y ai perdu mon portefeuille, j'ai raté mon train pour Minsk, et je me suis retrouvé aéré dans les rues de Vilnius avec ma petite valise à roulettes. Et à force de marcher, je me suis retrouvé devant un immeuble, celui du numéro 16 de la rue Grande Paulanka, qui aujourd'hui a changé de nom, elle s'appelle rue Jono Bazanavičius. Et sur cet immeuble, il y avait une plaque commémorative. Cette plaque commémorative était en lituanien et en français, et il y avait noté ici, a vécu Romain Gary, né en 1914 à Vilnius, mort en 1980 à Paris. Il y a vécu entre 1921 et 1925, et il en parle de cet immeuble dans son roman La promesse de l'aube. Alors La promesse de l'aube n'est pas vraiment un roman, c'est l'autobiographie romancée de Romain Gary, que j'ai lu moi lorsque j'avais 17 ans. Et c'est ce que Clément disait tout à l'heure, dans la mère de Romain Gary nourrissait de grandes ambitions pour son fils, tout le monde se moquait de ses ambitions, sauf ce petit homme, ce monsieur Piekielny. Et face à cet immeuble, je me suis souvenu de cette phrase, au numéro 16 de la rue Grande Paulanka à Vilno habitait un certain monsieur Piekielny, et dans ce faisceau de hasard qui m'a amené à cet endroit précis, j'ai voulu voir une sorte d'injonction à mener l'enquête, et à écrire sur cette souris triste à la barbiche roussie par le tabac, comme disait Gary.
Alors, en ce qui concerne pas le mal. Roman de...
On parle quand même d'un mec qui est mort pendant la guerre, assassiné par les nazis. Je ne vois pas ce qu'il y a vraiment de drôle là-dedans.
On va en parler un petit peu plus tard, de ce monsieur Bickel. Alors, le roman de Clément commence par une attaque en règle. Mm-hmm. Sur le tourisme, le voyage contemporain. Alors, c'est le roman. Je parlais d'enquête, hein, toujours au début, parce que, en effet, ce roman débute, en effet, par une conversation entre justement ce narrateur et cette jeune femme qui vient de New York et qui correspond avec lui sur Facebook. Et voilà, ils sont en pleine discussion, et voilà, ça commence par une attaque en règle sur le touriste contemporain. Et en fait, il oppose justement à ce tourisme le voyage avec un but à dessein. Mm-hmm. Si on peut dire.
Oui, il dit que nous ne sommes que des Marco Polo parodiques.
Marco Polo parodiques. Les MPP. Oui, alors c'est une attaque du narrateur que moi je ne partagerai pas forcément parce que je suis moi-même touriste. Mais disons que... Effectivement, ça commence par une conversation sur Facebook, et la question est de savoir qu'est-ce qu'il va faire cet été, en fait. Et son ami qui habite à New York, dont on parlait, la fameuse Augusta, lui dit « mais t'as qu'à voyager ». Il dit « bah, c'est-à-dire faire du tourisme, quoi ». Et c'est un personnage, elle lui dit « oui, mais en fait, ils se disent qu'il y a un sentiment bizarre dans le tourisme contemporain, qui est un sentiment factice ». Comme si on imitait une activité réelle qui a pu être en fait le voyage avant le tourisme de masse.
Et d'ailleurs, cette Augusta a une phrase très drôle parce qu'il dit des touristes que parfois ils disent « Ah, on a fait l'Égypte, on a fait la Grèce » et Augusta répond « Oh, bâtisseur !»
Oui, oui. Mais disons, moi ce qui m'a toujours amusé dans le voyage...
C'est ce que je me suis laissé
dire. Oui, bien sûr. Ce qui m'a toujours amusé dans le voyage, c'est le côté protocolaire. J'aime beaucoup dans un livre de Susan Sontag qui est sur la photographie. Elle dit que les peuples qui ont une forte culture du travail, les Allemands notamment, les Japonais, les Américains, la photographie pour eux, la photographie de voyage pour eux, c'est un substitut de travail en fait, parce que du coup on leur donne un truc à faire et donc ça a quelque chose de ils suivent des protocoles, vous savez, les Japonais, quand ils viennent en France, ils ont parfois des tableaux Excel avec les trucs qu'ils doivent photographier. Et donc c'est un rite, en fait. Et c'est pour ça que la moitié des photos qui sont prises ne sont jamais développées. Enfin, c'est une statistique qui date de la photo argentique. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on se rend compte que finalement, c'est l'acte de la capture qui importe plus d'un point de vue personnel que l'impression de l'image elle-même. Mais donc pour revenir sur le sujet, en effet, il y a le sentiment que par rapport à un Marco Polo à qui on avait donné des vraies tâches, c'est-à-dire que Marco Polo, il est considéré comme le voyageur ultime, c'est l'homme aux mille aventures qui a ramené de son séjour un livre plein de trésors, sur d'ailleurs plein de foutaises aussi, mais bon, il est un peu affabulé. Mais c'est quelqu'un qui a pas, je dis un moment dans le livre, c'est pas quelqu'un qui aime sentir le vent contre son visage, c'est quelqu'un qui va vraiment quelque part. Et dans le tourisme contemporain, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il manque ça. Et c'est là que cet ami Augusta va lui dire, eh ben, figure-toi que j'ai peut-être une raison de te faire venir à New York qui ne serait pas seulement le fait de prendre en photo l'Empire State Building.
Et Marco Polo, qui a passé 20 ans tout de même à la cour de Kubilai Khan, lorsqu'il rentre à Venise, il tape à la porte de sa maison, qui aujourd'hui est un théâtre, le Teatro Malibran, où nous sommes promenés avec Clément, puisqu'il était venu me voir à Venise. Et alors la servante, enfin c'est une histoire, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais la servante lui aurait demandé qui est là, et Marco Polo en patois vénitien aurait répondu « El padrone », c'est le patron, qui revenait les bras chargés d'or de Venise. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que le devisement du monde, alors là on s'éloigne complètement du sujet, mais le devisement du monde, qui est le livre écrit par Marco Polo, il l'a écrit en prison, parce qu'il s'est retrouvé en prison.
Il l'a dicté d'ailleurs.
Il l'a dicté à un type qui s'appelle Rustichello da Pisa.
Alors en tout cas, ce voyage va devenir donc une enquête. Et cette enquête, d'ailleurs justement, cette enquête donc va mettre en mouvement ce drôle d'espion. D'ailleurs, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de ce titre qui porte un petit peu à confusion, parce que un amour d'espion, qui est l'espion? Est-ce que c'est ce narrateur? Est-ce que c'est Dragan? Ou est-ce que c'est nous, peut-être tout simplement?
Bah, l'ambiguïté est volontaire parce que c'est vrai qu'il y a en fait deux espions. En fait, c'est une histoire d'espions espionnés. Puisque le fameux Dragan, on va observer en fait dans le livre, un peu comme dans Forrest Gump, il y a une espèce de boucle temporelle et puis après ça revient. Il y a une sorte de flashback où on va apprendre comment Dragan, le roumain critique d'art qui rencontre donc cette jeune française, comment lui et cette jeune fille vont se rencontrer, parce qu'il y a une suite de péripéties. Ils se croisent sur cette fameuse application Tinder, mais par la suite en fait elle va pas lui répondre, donc lui il va utiliser tous les moyens qui sont à sa disposition, c'est-à-dire très peu, pour essayer de la rencontrer. Donc c'est pour ça que lui il se rend lui-même espion, en fait il se rend lui-même espion parce que avec toutes les possibilités que nous donne la vie contemporaine d'espionner nos semblables, eh ben il va les employer quasiment toutes pour essayer de mettre la main sur cette fille.
Alors d'ailleurs, voilà, ce livre, comme le vôtre d'ailleurs, est émaillé d'images. Il y a beaucoup d'images dans ce livre. Justement, je me disais, bon, alors évidemment, ce sont des images qui sont tirées de sites, de captures d'écran, mais ça peut être aussi des photos, ça peut être des schémas, ça peut être des cartes, ça peut être des tas de choses. Et tous les deux, vous avez choisi justement d'y incorporer ces images. Alors, est-ce que ces images, ce sont des pièces de conviction pour votre enquête?
C'est une bonne formule. Qu'est-ce que t'en dis?
Oui, alors moi, pour le coup, j'ai vraiment été influencé par Clément, parce que j'étais assez contre le fait d'inclure des images dans les romans, pour la simple raison que j'avais l'impression que c'était une sorte de désaveu du pouvoir de la littérature, enfin du pouvoir des mots en tout cas. Et Clément, petit à petit, lui qui a vraiment théorisé cette question, et je crois savoir qu'il est en train d'écrire un essai sur la question, a réussi à me convaincre, et je crois qu'il a eu raison. Vous parlez de pièces à conviction, il y a par exemple dans mon livre une photo du registre des habitants du numéro 16 de la rue Grande-Paulanca, puisque lorsque j'ai mené cette enquête, j'ai d'abord tapé le nom de Piekielny sur Google, je n'ai rien trouvé, si ce n'est que Piekielny veut bien dire infernal en polonais, qu'il y a un rappeur polonais qui s'appelle le AKA Piekielny, dont j'ai regardé certains des clips, ce qui fait de moi le spécialiste français du rap polonais. Ensuite, je suis allé chercher dans les archives, et là, j'ai trouvé le le registre des habitants du numéro 16 de la rue Grande-Paulanka, et j'ai vu le nom de Mina Katsev, la mère de Romain Gary, le nom de Roman Katsev, qui est le nom de naissance de Romain Gary, mais je n'ai pas trouvé de trace de ce pied qui est le nid. Mais pour prouver en tout cas que j'y suis vraiment allé, j'ai inclus cette photo, et j'en ai mis d'autres, dont une qui m'émeut particulièrement, c'est celle d'une rue à Vilnius, qui s'appelle la rue Zeimatidžos, si mon souvenir est bon. La prononciation ne l'est peut-être pas. Vous savez, il y avait 106 synagogues à Vilnius avant 1940. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une. Il y avait 60 000 juifs et aujourd'hui, il n'en reste que 1200. Donc la communauté juive, tout le monde juif de cette ville qu'on appelait la Jérusalem de Lituanie, a été englouti sous la vague brune des nazis. Et puis le patrimoine, ensuite, a été complètement détruit par l'occupation soviétique. Sauf que le temps passe et parfois la peinture s'écaille et on voit réapparaître, comme ça, à la faveur du temps et de cette peinture qui s'écaille, les enseignes en yiddish des magasins juifs. Et donc j'ai mis une photo aussi d'un de ces magasins où on voit réapparaître les lettres en yiddish, comme si le passé de la ville, près d'un siècle plus tard, ressurgissait.
Oui.
Et Tinder ?
Et Tinder. Non, mais c'est vrai que François-Henri parle de traces. J'aime bien ce mot parce que, pour être légèrement pédant, je m'intéresse beaucoup à la sémiologie, donc à la science des signes. Et en fait, il y a un système de signes qui a été créé par Charles Peirce, qui est intéressant. Il divise entre les symboles, les icônes et les indices. Et Le langage, c'est du symbolique, c'est-à-dire que c'est par convention qu'on dit que le mot « chat », ça représente un chat. Les icônes, c'est quand il y a une ressemblance. Si je dessine un chat, c'est une icône. Et l'indiciel, c'est la trace. Si je vois une trace de chat dans la neige, c'est de l'indiciel. Or, ce que je trouve fascinant, c'est que la photographie appartient à l'indiciel. C'est une trace, puisque c'est l'empreinte que fait la lumière sur un papier photosensible. Et c'est pour ça, et ça c'est pour moi, quand j'ai commencé à réfléchir à la photographie, ça a été vraiment ce qui m'a marqué le plus. C'est-à-dire, c'est ça aussi, ce pouvoir de conviction qu'elle nous donne, la photographie. C'est que c'est une trace comme une empreinte, comme quelqu'un qui a appuyé sa main sur un papier, en fait. Et c'est pour ça que, comme moi je suis très préoccupé par la crédibilité de ce que je raconte, comme dans, en fait, ça a été le cas dans toute l'histoire de la littérature. Le fait que l'auteur veuille faire accroire à ce qu'il raconte, avec toutes sortes de procédés qui ont été parfois assez drôles, Diderot, puis je cite souvent les liaisons dangereuses, parce qu'au début des liaisons dangereuses, on nous dit que ces lettres ont été retrouvées, c'est un mot de l'éditeur, soi-disant, parce que tout ça, ça a été écrit par l'auteur. En fait, toutes ces manœuvres sont aujourd'hui un peu ringardisées, et moi je crois au contraire qu'il faut donner de nouveau à croire. Et la photographie est un excellent indice et un excellent outil, et ça marche super bien dans le livre de François-Henri, parce que, effectivement, quand il est dans ce registre, il nous parle de sa quête dans le registre, et puis donc on est dans le langage, donc quand même dans quelque chose qui tient un peu à distance, et puis soudain, on voit l'image de ce registre, et là on croit, quoi. C'est comme Jésus, quoi. On voit que le truc est tombé, puis on croit, quoi. Ça y est.
Vous voyez, quand je vous dis qu'il a vraiment pensé à tout ça, il est beaucoup plus intelligent que moi. Mais c'est vrai que ces photographies concourent à renforcer l'effet de réel de la prose, et elles servent aussi. Enfin, elles peuvent servir aussi à brouiller les pistes. Je ne sais pas, hein, mais je crois que Clément a mis des photos de la fameuse Augusta. Est-ce que c'est vraiment elle ? Je ne suis pas sûr.
Oui, parce qu'en fait, il faut quand même que je dise que j'ai un peu conçu mon livre comme on fait un film, parce que j'ai dessiné, j'ai fait une espèce de storyboard, et puis j'ai pris des photos, enfin, il y a eu pas mal de mises en scène, et j'ai demandé à plusieurs de mes amis de jouer dans mon livre. Sauf quand ils sont trop connus, comme lui, donc on l'aurait reconnu en deux minutes, mais voilà, j'ai plusieurs amis qui sont des acteurs de mon livre.
Ceci dit, il paraît quand même, à un moment donné.
Oui.
Un riverain.
Effectivement. On en reparlera plus tard aussi.
Alors, Clément apparaît dans mon livre, en revanche, et de manière beaucoup moins furtive.
C'est ça,
puisque
tout à fait.
Il se trouve que... Alors, je crois qu'il apparaît à deux ou trois reprises, quand même, parce que je fais lire mon manuscrit à Clément. Et parfois, il me fait des réflexions que je trouve intéressantes et je voulais les livrer au public. Par exemple, à un moment, j'écris une scène où Gary sort du bureau du général de Gaulle, donc on est à Londres en 1944. Il sort du bureau du général, il tombe sur Pierre Mendès France et Raymond Aron. Et puis ensuite, il se rend dans un bar où il croise Maurice Druon. Et enfin, il finit par boire des verres avec Kessel. Et Clément, très justement, me dit « Y avait-il seulement des anonymes pour peupler la Terre en ce temps-là ?» Et donc je me disais qu'une telle phrase, je ne pouvais pas la laisser tomber comme ça dans les oubliettes de l'histoire, et j'ai voulu l'inclure. Et alors il y a une autre histoire, c'est que il se trouve qu'à un moment on avait été nominés pour un prix, et puis ensemble, et on s'était dit que celui qui remporterait le prix, on était avec donc trois amis, hein, Clément et Arthur. Et on s'était dit que celui qui remporterait le prix ferait un chèque aux deux autres d'une certaine fraction de la somme de ce prix qui était doté. Et puis bon, j'ai eu la chance d'avoir ce prix, et j'ai donc envoyé un chèque à Arthur et un chèque à Clément. L'un s'en est servi pour s'acheter une machine à laver, et l'autre pour se payer les services d'une call girl. Alors bien sûr, je ne dis pas qui a fait quoi, sachez seulement que les vêtements d'Arthur sont toujours impeccables.
Oui, François-Henri raconte ça parce que depuis que je raconte à tout le monde qu'il a monnayé ses services auprès des vieilles vénitiennes, c'est, voilà ce que j'ai récolté.
Bon, on va revenir à M. Piccolini. On n'a pas beaucoup de renseignements sur ce pauvre M. Piccolini. Il a été complètement. Enfin, il paraît dans un chapitre donc de La promesse de l'aube, ça dure un chapitre,
oui,
et puis après il disparaît,
pages.
C'est ça, quatre pages, et après il disparaît. Et donc je me disais, cet homme, ce livre, c'était aussi un moyen de rendre vie à ce petit homme perdu. Et alors moi, ça m'a fait penser au livre de Michon, Les vies minuscules. Je pensais que c'était une vie minuscule que vous aviez voulu retraduire, ou remettre à jour en tout cas.
Avançons dans la genèse de mes prêts. Jusqu'à l'ascendant qui fut beau capitaine, je l'enseigne insolent ou négrier farouchement taciturne. À l'est de Suez, quelconque le retourné en barbarie sous le casque de liège, jotte pur aux pieds et amertume aux lèvres. Personnage pensif qu'endosse volontiers les branches cadettes, les poètes apostats, tous les déshonorés pleins d'honneur, d'ombrage et de mémoire. Un quelconque antécédent colonial ou marin? La province dont je parle est sans côte, plage ni récif, ni malouin exalté, ni hautain moko, ni entendit l'appel de la mer quand les vents d'ouest la déversent, purgée de sel et venue de loin, sur les châtaigniers. Voilà, c'est le début des vies minuscules que j'ai écrit aussi. Faut pas me chauffer sur Michon, hein, parce que là, on peut passer l'heure là-dessus. Parfois, j'apprends des passages de Michon par cœur pour les recopier comme ça de mémoire, et avoir l'impression que quelques bonnes phrases sortent de ma plume. C'est un peu comme ce Ménard dans Borges, dans Fiction, qui a l'ambition de réécrire le Quichotte. Donc parfois, je réécris les vies minuscules. C'est très bizarre la façon dont je me tiens, c'est-à-dire qu'on m'a interdit pour des questions de sonorisation de mettre mes mains sur la table. Par conséquent, comme le micro est trop bas, je ne peux pas vous regarder en parlant. Mais j'imagine que vous êtes très beau. Alors, vous me dites que ça fait penser aux vies minuscules de Michon. Non ? Non ? Si, oui, en effet, ce Piccolini est une souris triste dont plus personne ne devrait prononcer le nom, que tout le monde devrait avoir oublié, mais que par le pouvoir de la littérature, on prononce encore, parce que Romain Gary l'a exhumé de l'oubli, comme Pierre Michon a pu faire avec ses petites vies de la Creuse qu'il a racontées dans ce livre paru en 1984. Aux éditions Gallimard, et qui est un véritable chef-d'œuvre. Et vraiment, je vous encourage, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à vous rendre à la librairie Mola juste après cette rencontre et vous le procurer. Je vais d'ailleurs faire un débat avec Pierre Michon à Saint-Étienne. Vous êtes tous cordialement invités la semaine prochaine, jeudi prochain. Mais pour continuer là-dessus, j'ai aussi raconté à travers l'histoire de ce Piccolini, dont j'ai trouvé très peu de traces, c'était ça votre question initiale, comme si derrière chaque coup de crayon dans les archives il y avait eu un coup de gomme, comme s'il avait été frappé en quelque sorte de damnatio memoriae. Alors pour les non-latinistes, je vais vous dire ce que c'est une condamnation post-mortem à l'oubli, une sorte d'effacement rétroactif de toute trace de l'existence d'une personne que bien sûr on appliquait à peu près seulement pour les empereurs romains, les empereurs qui avaient été des empereurs tyranniques et cruels. On essayait de faire disparaître toute trace de leur existence en grattant leur nom des édifices, en brûlant les archives sur lesquelles leur nom se trouvait, en, en faisant fondre la monnaie qui était à leur effigie, etc. etc. Et j'ai eu l'impression très rapidement que ce Piekielny avait été frappé de damnatio memoriae. Et j'ai donc commencé aussi à raconter, à imaginer sa vie, et puis aussi à raconter ces fameuses scènes lors desquelles Romain Gary a pu prononcer le nom de ce Piekielny. Donc sa rencontre avec le président Kennedy à la Maison Blanche en 1963 avec Jean Seberg, sa rencontre avec le général de Gaulle, enfin une de ses rencontres avec le général de Gaulle, puisqu'il l'a vu plusieurs fois. Et j'imagine donc de Gaulle décorant Gary sur l'arc de triomphe de la Croix de Guerre, et Gary en saluant le général, lui disant... mon général, au numéro 16 de la rue Grande-Paulanka, à Vilno, habitait un certain monsieur Piekielny. Et puis j'imagine également une scène à La Passe où Gary apprend qu'il a le prix Goncourt, il retient le journaliste par la manche et il lui dit cette phrase. Et puis aussi le fameux numéro d'apostrophe avec Bernard Pivot, où on peut voir que si on va chercher ce numéro sur l'INA, sur le site de l'INA, on peut voir que pendant le générique, Romain Gary prononce le nom de ce monsieur Piekielny. Alors c'est recouvert par la musique de Rachmaninoff, mais on peut voir les lèvres de Gary qui bougent, et si on sait lire sur les lèvres, on peut voir le nom de Piekielny. Et puis, en racontant Gary, j'ai aussi commencé à parler de moi, puisqu'il y avait un écho, et j'ai compris pourquoi Gary, la lecture de La Promesse de l'Aube à 16 ou 17 ans, m'avait à ce point fasciné, en ce sens que nos mères se ressemblaient beaucoup.
Bon, enfin, c'est vrai que Romain Gary, c'était un personnage qui était connu pour ses arrangements, ses petits arrangements avec la vérité. Lui, en fait, c'était, enfin, il passait son temps justement à la déguiser, à la travestir. C'était ça, son but dans l'écriture.
Je ne sais pas si c'était son but, mais oui, il prenait beaucoup de liberté.
En tout cas, oui. Est-ce que c'était justement, est-ce que c'est un modèle pour vous justement ça ?
Ben, moi, je
se travestir, est-ce que c'est un...
le travestissement de la vérité.
Seulement le mardi soir. En fait, vous savez, certains lecteurs disent qu'ils ne souhaitent lire que des romans d'après une histoire vraie, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu de la non-fiction. D'autres prétendent au contraire que les écrivains d'aujourd'hui n'ont plus d'imagination. Moi, ce que je voudrais faire, ce sont des romans d'imagination, mais adossés au réel, qui seraient dans une sorte d'entre-deux, où la frontière entre le réel et la fiction est tout à fait poreuse. Et ce personnage de Piekielny m'a permis d'explorer ce terrain-là. Mais Clément le fait aussi pas mal. Enfin, je veux dire, quand je dis pas mal, je veux dire, il le fait beaucoup.
Moi, tout ce que je raconte est vrai.
Mais c'est encore mieux, parce qu'il fait croire que tout ce qu'il raconte est vrai.
Alors, qu'est-ce qui est vrai, Clément, dans ce livre, justement ?
Mais tout ! Non, mais je peux pas dire tout parce que j'ai dit que je le faisais comme un film, mais je n'aime pas trop dévoiler mes oui. secrets.
Est-ce que vous auriez l'idée de demander à un magicien ces trucs ?
Non, mais sans blague, parce que tout à l'heure, oui, on parle un peu du lecteur contemporain, et j'ai l'impression que parfois on entend un discours qui dit ah, mais les lecteurs contemporains, ils veulent que du vrai, des histoires vraies, ils aiment pas l'imagination. En vérité, je crois que personne n'a jamais aimé l'imagination pour elle-même. C'est-à-dire que ce qu'on aime dans un livre, c'est aussi qu'il nous fasse croire qu'il est vrai.
Et ce qu'on aime avant tout, c'est qu'il soit écrit. Enfin, oui. En tout cas, pour ma part, c'est ça. Et le livre de Clément, qu'encore une fois, je n'ai pas lu, mais beaucoup m'en ont parlé. Parce qu'ils sont, là, les gens vont te croire. Pensent qu'on est amis. Et, viennent me parler du livre de Clément avec des propos très élogieux. Et il semblerait que le livre de Clément soit remarquablement écrit, rythmé, qu'il y ait vraiment une voix. Et surtout, on m'a dit qu'il était très drôle. Et alors, j'ai vu une jeune fille le lisant dans le métro, et elle sait ce qu'elle a fait. Alors, je ne sais pas quel passage elle pouvait bien lire. Clément lui-même, dans la vie, étant un personnage assez terne. Mais peut-être que dans ses livres, il arrive comme ça à se transfigurer. Et,
oui, exactement.
Alors ne soyez pas trop modeste, parce que votre livre aussi est drôle. Il y a plein de scènes hilarantes, drôlissimes, enfin vraiment avec des plaisanteries un peu potaches, même parfois. Chez vous, comme
chez vous. Alors ça, c'est un défaut sans doute de mes lectures de jeunesse, de certains écrivains dont je ne citerai pas le nom, étant donné qu'ils sont parfois membres de jurys littéraires. Donc reposez-moi la question dans un mois et demi et peut-être que je répondrai d'où ça vient.
Bon, enfin, en tout cas, cet humour, il vient de. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est très important dans vos livres, autant dans le vôtre que dans le vôtre. Et est-ce que justement, c'est un moyen de mettre les choses à distance ? C'est quelque chose qui est.
Mais Pour moi, la moindre des éthiques quand on écrit, c'est de se prendre comme lecteur étalon. Je n'aimerais pas écrire un livre dont je me dirais honnêtement, si j'en étais le lecteur, je me ferais chier. Pour moi, l'écriture, la lecture, c'est un divertissement, mais c'est un divertissement des cimes. C'est un divertissement magnifique. Mais je n'aime pas trop les livres qui m'ennuient. Et j'en vois beaucoup qui sont sérieux. Chevillard en parle très très bien, Éric Chevillard, un écrivain que j'admire. Il parle très bien de ces livres dont rien ne dépasse, sauf la langue de l'auteur bien appliquée, comme ça. J'aime bien cette expression. Et oui, j'aime l'humour.
J'aime rire. Mais quant à moi, j'ai eu quelques problèmes là-dessus pour ce livre, notamment parce que ça parle de sujets parfois assez graves. Et je me suis posé la question de savoir comment j'allais raconter certains épisodes. J'ai une manière parfois un peu désinvolte de raconter l'histoire, et là, c'était un peu compliqué. Mais Garry lui-même disait que l'humour était l'arme blanche des hommes désarmés. Il racontait que dans le ghetto de Varsovie, je crois, on riait beaucoup. Alors on faisait face à de nombreux malheurs, mais en même temps on riait. Il raconte l'histoire d'un type qui, ayant pris un coup de machette ou de hache en plein milieu du visage, rentre chez lui défiguré. Alors on lui demande « Est-ce que ça te fait mal ?» Et ce type répond « Seulement lorsque je ris. » Donc voilà cet humour qui est une affirmation aussi de la supériorité de la dignité humaine.
Mais c'est, à mon avis, c'est une vraie question de composition, parce que d'arriver à mêler en fait le tragique et le comique. Parce que moi, mon livre est moins imprégné que celui de François-Henri de sujets tragiques, même si on retrouve quand même un peu d'histoire, parce que le personnage a donc eu une vie en Roumanie avant de débarquer à New York, et on comprend peu à peu ce qui s'y est passé. Mais c'est vrai qu'on court le risque, à mon avis, d'annuler l'un et l'autre quand on veut être tragique puis comique. Si on mène pas bien sa barque, on court le risque que les deux s'annulent, je crois.
Non, parce que ce fameux Dragan a passé son enfance sous la dictature des époux Ceaușescu, qui, alors je n'ai pas vécu en Roumanie dans les années 80, mais c'était pas les plus grands comiques de l'histoire, semble-t-il.
Non, quoique avec le recul, on puisse en rire.
Oui, type se faisait appeler comment ? Alors, il y avait plusieurs génies des Carpates.
Le génie des Carpates, le Danube de la pensée.
Danube de la pensée.
Et puis, bien sûr, le comte du Cator.
Et puis, sa femme, qui était pas débile, mais bon, enfin, c'était pas une lumière, elle, je crois qu'elle se faisait remettre des diplômes, des doctorats d'honneur ou de la plupart des universités roumaines.
Et des universités à l'étranger. C'est-à-dire que Elena
Ceaușescu... C'est la femme la plus diplômée du monde, non ?
Oui, elle avait arrêté l'école à 14 ans, à peu près comme Ceaușescu, qui était cordonnier. Et quand Ceaușescu est devenu comte du Cator, il faisait beaucoup de tournées à l'étranger, parce qu'il avait quand même réussi à se mettre dans la poche les Russes et les Américains. Ce qui était quand même assez fort à cette période-là, au début des années 70. Et c'est pour ça d'ailleurs que son peuple l'adorait. Mais en fait, l'entourage rapproché de Ceaușescu se démerdait pour que Elena Ceaușescu se voie remettre tous les diplômes qu'il fallait dans les universités étrangères. Donc elle-même faisait écrire ses livres sur la chimie, parce qu'elle se voulait une grande chimiste, par de véritables intellectuels roumains, et elle les signait de son nom. Et ce qui est fascinant avec ce couple, c'est qu'elle y croyait. Elle était elle-même la première dupe. On lui a tellement dit « vous êtes une grande génie », etc., qu'elle finissait par y croire. Et de même, Ceaușescu croyait à la fortune de son peuple. Et quand il allait aux États-Unis et qu'il voyait des magasins remplis de victuailles, il était persuadé qu'on les avait montés de toutes pièces pour sa venue. Ben, vraiment, il le croyait, sincèrement. Et il faut pour ça savoir qu'en Roumanie, en fait, on l'entretenait lui-même dans cette fiction. Et il y a une vidéo assez célèbre où il arrive à l'aéroport de Bucarest, et devant lui, il y a tout un étal de fruits, mais vraiment très très longs, de fruits et légumes variés, et qui sont en fait en plastique. Mais lui-même ne le sait pas. C'est-à-dire qu'il est en fait le propre dupe de toute cette grande fiction qu'a été la Roumanie communiste.
Mais il y a une vidéo qui est presque émouvante, c'est celle de l'assassinat, de l'exécution des époux Ceaușescu qui ont été condamnés au terme d'un procès pour le moins expéditif, où les propres avocats des époux Ceaușescu considèrent qu'ils ne sont pas en mesure de les défendre, et elles disent oui, nos clients sont des criminels. Et on voit presque l'incompréhension dans leur regard, c'est-à-dire qu'eux pensaient sincèrement, et c'est ce que disait Clément, avoir été bons pour leur peuple. Et lorsqu'ils prennent comme ça, je crois que c'est une rafale de calage ou je ne sais quoi contre un mur, ils se serrent l'un contre l'autre. Enfin, c'est presque émouvant, en fait, dans cette...
Oui.
On n'est pas en train de faire l'éloge des époux de Ceaușescu, hein, qu'on s'entende bien.
Non, mais ce qui est marrant, c'est que Ceaușescu n'était pas un homme à femme, contrairement à énormément de dictateurs.
Oui. C'était la femme de dictateur de Diane Ducret, voilà, qui a parlé un peu de ça.
Il a été extrêmement fidèle toute sa vie, il n'était pas du tout préoccupé. Son grand amour, c'était la Roumanie. Vraiment, voilà. Et pour revenir un peu à mon livre, parce que quand même, il y a un truc. Ce qui était finalement très romanesque, j'ai trouvé dans cette histoire roumaine récente, c'est cette fameuse Securitate, qui était en fait la police secrète, sans trop en dire, mais qui était la police secrète sous Ceaușescu, qui avait eu en fait le génie, pour éviter que son peuple se révolte, de faire des espions d'à peu près tout le monde. De sorte que finalement, à la chute du communisme en 89 en Roumanie, il y avait près d'un tiers de la population roumaine, qui aujourd'hui est de 25 millions, mais qui devait être déjà assez conséquente, qui faisait partie de cette police secrète. De sorte qu'on espionnait son voisin, mais on espionnait aussi sa femme, son meilleur ami. Et quand les archives ont été ouvertes assez tard, c'est-à-dire en 2006, de nombreuses personnes en fait, sont allées récupérer leurs dossiers et ont découvert l'un que sa femme l'avait espionné pendant 30 ans. Et ce sont des dossiers qui ont quelque chose... Moi, j'en ai feuilleté, enfin, j'ai vu un peu de quoi c'était fait, qui sont touchants parce que ce sont des documents qui sont risibles. Il n'y a rien, quoi. Machin est allé acheter le pain, ensuite on a parlé de ça au dîner, il a toussé. Et donc c'est une espèce de biographie nulle faite par quelqu'un d'autre à notre insu. Et je pense que de voir un tel document, ça doit avoir un effet vraiment effrayant sur quelqu'un.
Oui, en effet, oui. C'est ce qui a été le cas dans le livre, d'ailleurs. Je voulais vous demander, François-Henri, vous parlez à un moment donné de votre... vous avez une affection, un problème avec le passé, avec le... Les visions.
Ah, oui.
J'aimerais bien que vous m'en parliez parce que.
Je veux dire que je vois le passé à travers un filtre sépia. Enfin, je ne vois pas le passé, je vois parfois le présent à travers un filtre sépia. Et lorsque je suis sur mon scooter et que je longe la rue de Rivoli et que j'arrive place de la Concorde, au lieu de voir l'obélisque, je vois la guillotine. C'est-à-dire que la guillotine se trouvait là où se trouve aujourd'hui l'obélisque sur cette place de la Concorde qui, à l'époque, s'appelait place de la Révolution. Et alors. À Paris, mon tropisme est révolutionnaire, c'est-à-dire qu'à Odéon, par exemple, en lieu et place de la statue de Danton, j'imagine l'appartement de Danton. D'ailleurs, il y a un truc assez drôle sur cette statue, c'est-à-dire que toutes les statues bronze à Paris ont été fondues en 1940 par les Allemands, sauf deux, dont celle de Danton. Donc celle de Danton préexiste aux années 1940. Et elle se trouve là où se trouvait l'appartement de Danton. Donc j'imagine cet appartement, j'imagine la guillotine. Et à Vilnius, ce filtre sépia était considérablement exacerbé. C'est-à-dire que je me promenais dans les rues de cette ville, notamment dans ce qui a été le ghetto de Vilnius pendant la guerre. Et alors que tout a disparu, j'essayais d'imaginer ce monde juif, ces synagogues, ces yeshivot, ces écoles de prière... Et puis jusqu'à rentrer dans un magasin et entendant le flot un peu saccadé d'Eminem, je me figurais la mélodie lancinante d'un orgue de barbarie. Voilà comment en 2015 on peut avoir l'impression de se retrouver en 1925.
Et alors la différence de Clément qui lui au contraire axe tout son livre sur l'ultra contemporain,
oui.
Les réseaux sociaux, le numérique, etc. Est-ce que voilà, alors qu'est-ce que vous aviez envie de démontrer dans cette démonstration-là justement?
Bah alors démontrer, je sais pas.
On ne démontre pas dans les romans.
Oui, enfin, disons que moi je me sens pas porteur forcément d'un message ou d'une idée, même si le livre contient des idées, mais sous cette forme un peu étrange qu'elles prennent dans un roman, elles prennent une espèce de couleur qui est romanesque, sauf quand elles sont mal amenées, donc ça je peux pas dire. Mais le contemporain, ça m'intéresse beaucoup. En fait, je crois que on est un peu retenu de l'aborder parce que on lit beaucoup de livres du 19e. Et en fait, je ne cesse de me rappeler que dans Illusion perdue de Balzac, il parle de l'imprimerie. Et j'ai eu une scène assez marrante avec un de mes amis, un écrivain qui s'appelle Olivier Liron. Récemment, nous sommes allés rue Monsieur le Prince à Paris, où il y a eu la première librairie sans livres. C'est une librairie dite à la demande, en fait, où il y a une grosse machine. C'est une librairie de puffs, des puffs des presses universitaires de France, qui en fait imprime à la demande un livre. Donc on demande un que sais-je, et en 5 minutes, on voit la machine qui le fabrique. Et j'ai eu l'impression de me retrouver dans un roman de Balzac, donc face à une espèce de machine dont il s'agissait d'essayer de parler, de la mettre en mots. Et de même, en fait, Proust parle du téléphone. Enfin, en fait, je pense que la littérature a aussi une fonction de faire voir ce qui semble être sous nos yeux. Parce que l'image a quand même ce défaut qu'elle redouble le réel parfois. La peinture a la vertu de nous montrer le réel, ce qu'il a de visuel sous un angle spécifique. Mais l'image photographique, elle le redouble parfois de façon redondante. Et moi, j'aime bien que le langage nous fasse prendre une sorte de distance avec ce qui est sous nos yeux. Et par ailleurs, ce qui m'intéressait dans Tinder et ces autres applications dont je parle, Facebook, Instagram, c'est que ce sont des objets bas, ce sont des objets qui ne sont pas littéraires, en fait. Et moi, je m'intéresse à cette fonction de la littérature qui est d'élever des choses qui sont basses. On parlait tout à l'heure des vies minuscules. Moi, c'est un livre que j'adore de Michon parce que ce sont des vies voilà, broyées, petites.
Mais exaltées par le pouvoir du verbe.
Exaltées, voilà, qu'il a réussi à en fait, grandir. Et j'aime bien cette fonction de... Je m'intéresse à cette fonction de célébration de la littérature.
Mais c'est assez fascinant, cette histoire de librairie sans livres qui imprimerait aussi des livres sans littérature pour des lecteurs sans intelligence. C'est un peu comme le fameux couteau sans lame manche, dont on aurait perdu le manche ou l'inverse. Ouais.
Et qui ne coupe pas non plus d'ailleurs. Ouais. Bah oui, c'est marrant parce que quand on était devant ce truc, on avait l'impression d'être dans un roman de Balzac, donc on a commencé à parler comme dans un roman de Balzac. Genre, oh mon cher Olivier, mais vois-tu cette incroyable machine. Et c'est vrai que... Ouais. Non mais tout ce qui est considéré comme pas littéraire, un peu par intuition, j'aime comprendre pourquoi. Et Tinder, en fait, ça a été considéré comme pas romantique. Donc, pour redire deux mots sur Tinder, c'est une application de rencontre qui permet de rencontrer des gens près de chez soi. Et donc, c'est considéré, notamment par mes contemporains, comme quelque chose de pas romantique. Et donc, de pas romanesque. Et pourquoi ce n'est pas romanesque ? Parce que ce n'est pas dans les romans. Notre manière de voir l'amour, elle est quand même conditionnée beaucoup par, j'ai envie de dire la littérature, mais malheureusement c'est le cinéma. J'aime beaucoup cette phrase de Woody Allen qui dit « La vie n'imite pas l'art, elle imite la télé de mauvaise qualité. » Mais bon, on peut quand même faire le pari de se dire que peut-être qu'un roman sur Tinder... donnerait une forme, enfin conférerait une sorte de romantisme à cette application, mais bon. En même temps, je fais pas non plus un éloge de Tinder, et je pense que le livre montre aussi ses limites.
C'est pas un roman que
quoi.
Sur Tinder, enfin je veux dire, Tinder non, fait partie du sûr, roman, mais ce qui est fascinant avec ce livre, me suis-je laissé dire, c'est qu'à partir d'un sujet qui peut paraître un peu frivole, c'est-à-dire la drague sur les réseaux sociaux, Clément en fait quelque chose de très profond, et moi j'en serais bien incapable. Moi je crois que en fait, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que je prends des sujets un peu lourds, vous savez, des têtes guillotinées, un mathématicien qui meurt en duel à 20 ans, un type prétendument mort dans un camp pendant la guerre, et puis je les traite un peu par-dessus la jambe parfois, ou en tout cas de manière, oui, un peu désinvolte. Clément, c'est l'inverse, il prend des sujets plus légers, en apparence, mais auxquels il... Il redonne un peu des lettres de noblesse ou de l'intelligence ou du. Voilà. J'aime bien beaucoup ce qu'il fait.
J'ai trouvé dans le livre de François Henri une définition possible de la littérature.
Alors c'est Romain Gary. On va savoir.
C'est Romain
Gary.
Depuis
le temps qu'on essaie de savoir ce qu'est la littérature.
C'est Romain Gary qui le dit. Hein, donc.
Ah non, ça c'est moi. Je suis désolé, c'est pas Romain Gary.
Ça.
Bien sûr.
Ah oui, d'accord.
Non, je vous assure. Non.
Bon. Non, je vais même vous dire, parce que je peux le lire.
En fait, c'est le moment où Romain Gary se trouve au Mexique, à Noël 1958, et alors sa femme, Leslie Blanche, sa première femme, a loué un hôtel en face de la montagne aztèque et sacrée du Popocatépetl, et Romain Gary commence à écrire La Promesse de l'Aube. Il commence à écrire les premières pages de La Promesse de l'Aube à Noël 1958. Et donc, il ne visite pas du tout le Mexique, et il se met même des boules de mie de pain mouillées dans les oreilles pour ne pas avoir à entendre les festivités dans la rue, ce qui va lui causer une otite monstrueuse. Il va croire qu'il va mourir et donc il presse Leslie de l'emmener à Mexico. Mais avant cela, je dis que donc il s'est retiré dans sa chambre et donc, en dépit des supplications de sa femme, il est resté dans sa chambre à ne rien faire, à rêver, à se souvenir, à mettre des mots les uns derrière les autres, à les faire danser à la queue-leu-leu dans une grande frénésie. Et c'est peut-être cela, et rien de plus, être écrivain. Fermer les yeux pour les garder grands ouverts. Alors, fermer les yeux pour les garder grands ouverts, ça vient de Jean-Philippe Toussaint. Et après, ce n'est pas Gary qui a dit ça, n'avoir ni Dieu ni maître et nulle autre servitude que la page à écrire, se soustraire au monde pour lui imposer sa propre illusion, tourner le dos au Popocatépetl. Et pour moi, c'est un peu ça, c'est-à-dire se retrancher du monde pour en créer un ex nihilo avec 26 lettres et un stylo. En plus, ça rime.
Ça rime. Non, mais c'est beau parce que ça me rappelle un passage de Cioran dans De l'inconvénient d'être né. Ce qui est marrant, c'est que Cioran a aussi inspiré le personnage de Dragan dans mon roman. Et à propos de ce renoncement, en fait, il dit que, il rapporte que Flaubert, que tu aimes tant, quand il a visité le Moyen-Orient avec Maxime Ducamp, Maxime Ducamp aurait rapporté que, en fait, Flaubert, devant les pyramides, ne pensait qu'à Rouen et à sa Bovary. Il regardait à peine en fait les pyramides. Il ne pensait qu'à son roman. Il était obsédé par ça. Et Cioran conclut en disant en fait, nulle grande œuvre sans une grande capacité de renoncement.
Alors c'est peut-être aussi une réécriture a posteriori de Maxime Ducamp, puisque Flaubert a écrit des lettres lors de son voyage en Orient, qui a duré près d'un an et demi. Il en a écrit beaucoup de lettres à sa mère. Alors c'est drôle parce qu'il écrit des lettres à Louis Bouillet dans lesquelles il dit « Ah, nous avons baisé toute la nuit, je viens de baiser une fille de Nubie dont les poils de chatte montaient comme des colliers de piastres, etc. » Et dans les lettres à sa mère, il est beaucoup plus sobre. Et à un moment, il dit à sa mère « Nous avons dormi, nous avons passé trois nuits au bord des pyramides, nous avons dormi au pied des pyramides, je ne pourrais pas les décrire, ce spectacle est trop beau. » Et il conclut par « Et franchement, c'était chouette.
» C'est beau. Aujourd'hui, on ne pourrait plus dormir au pied des pyramides.
Et c'est fascinant, on ne pourrait plus dormir au pied des pyramides. Et il y a un autre carnet que moi j'aime beaucoup, qui est celui de Che Guevara, qui a écrit un carnet de voyage. Il a fait un voyage avec un ami, Alberto Granado, à moto lorsqu'il avait 22 ans. Et à un moment, ils arrivent au Pérou, au Machu Picchu, à côté de Cusco. Et c'était une époque où le tourisme au Machu Picchu n'était pas très développé. Alors aujourd'hui, il est un peu. Il y a 2500 visiteurs par jour, ce qui n'est pas énorme. Ils ont réussi à. Voilà, comment on dit ? Merci de m'aider.
Je ne comprends pas.
Je n'écoutais pas ce que tu dis.
Si, j'écoutais.
Bon, bref.
Ils ont réussi à restaurer...
À endiguer le flot de tourisme. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un numerus clausus, en quelque sorte. Et à l'époque, non, on pouvait aller au Machu Picchu comme on voulait. Il n'y avait pas de ticket d'entrée. Et Che Guevara dit avoir dormi, avoir passé la nuit dans les ruines du Machu Picchu. Ouais. Et quand j'ai lu ça, justement, je pensais à Flaubert qui avait passé la nuit au pied des pyramides, comme Clément, dans mon livre, a passé la nuit dans les bras d'une call girl.
Ouais. Et dans mon deuxième livre, j'ai fait la sieste en Égypte quand même, au pied des pyramides.
Il y a une photo de Clément qui dort au pied des pyramides.
Ça, on ne le dit pas assez quand même. Oui. Photo authentique.
Je vous encourage vraiment à aller voir ce
preuve.
Roman.
Oui.
Celui-là, je l'ai lu. Et effectivement, il y a cette photo de Clément dormant, faisant la sieste au pied des pyramides. Ça s'appelle Lève-toi et charme.
Ouais.
Ça se passe à Berlin.
Alors, vous êtes bien d'accord pour cette définition de la littérature?
Bah oui, c'est moi qui la donne.
Non, mais...
Ah, celle de Clément, pardon. Oui. Non, mais il y a plusieurs définitions de la littérature, comme il y a plusieurs rôles de l'écrivain. Et moi, c'est tout ce qui m'importe en littérature, c'est simplement... Enfin, la seule différence que je fais, c'est entre les livres qui sont écrits et ceux qui ne le sont pas. Entre les livres où l'enjeu est l'écriture, les livres où l'écrivain se sert simplement de la langue pour raconter une histoire, et les livres où l'écrivain sert la langue. Et moi, ne m'intéresse que ceux où l'écrivain sert la langue. Et Clément Bénèche le fait remarquablement.
Ça me rappelle une distinction d'Oscar Wilde. Il dit « Il n'y a pas de livres moraux ou immoraux, il y a des livres bien ou mal écrits. »
Exactement, il disait également « Si l'on n'éprouve pas de plaisir à relire un livre qu'on a déjà lu, il n'était pas nécessaire de le lire une première fois. » Et c'est peut-être ça qui distingue ce qui relève de la littérature de ce qui n'en est pas, c'est-à-dire le plaisir éprouvé à la relecture d'un livre. Et c'est pourquoi, puisqu'on arrive au terme de cette rencontre, je peux vous avouer qu'en réalité, j'ai lu 6 fois le roman de Clément Bénèche.
Alors, après ce feu d'artifice final, nous allons en remercier ces deux écrivains jeunes et talentueux. Merci.